Le journal de Radio 1 et Tiers FM, des taxis, des syndicats et des politiques qui sont mécontents, des randonneurs attaqués par des chiens, beaucoup de troupes pour le Eiva des écoles et un héros de la résistance, voilà les sujets de ce journal. Et le journal, c'est d'ailleurs avec Valdemar Delage. Rebonjour Valdemar.
Rebonjour Damien, bonjour à toutes et à tous.
Les taxis sont mécontents et le font savoir.
Oui, les chauffeurs de taxis du Fénois qui se sont déjà levés plusieurs fois pour protéger leur profession, ils ont été reçus vendredi par le président du pays et le ministre des Transports. Cette rencontre fait suite à un courrier adressé il y a 6 mois au gouvernement et qui serait resté sans réponse jusqu'à ce qu'ils menacent de mener une opération escargot qui était prévue à l'origine demain, mercredi, mais mise en stand-by depuis vendredi. Alors, plusieurs points ont été évoqués durant cette réunion. Le plus important pour les taxis étant celui relatif au nombre de licences. Il y en a 185 selon Calixte Guillou, le président de la coordination des taxis Mauréa et des îles sous le vent. Un chiffre qui, à l'entendre, serait déjà trop élevé. Il souhaite ainsi la mise en place d'un quota, en ajoutant tout de même que le chiffre doit être précisé lors d'une réunion de travail. Autre problématique soulevée par les taxis, celle des stationnements qui ne sont pas assez nombreux. Écoutez les précisions de Calixte Guillou.
On nous avait promis que la nouvelle gare, on aurait des lignes de stationnement. Je n'ai jamais vu de schéma, de plan qui me précise que voilà, vous êtes situé là. Je parle de la gare de Gopago. Hein. Et pour Tarawon, j'attends toujours la ligne de stationnement. On m'avait promis une ligne de stationnement. En 2015, j'ai fait un courrier.
Le président de la coordination des taxis de Tahiti et Mauréa au micro de Vaikiare Pereira, à qui il n'a pas oublié de préciser que le combat contre ce qu'ils appellent les taxis pirates est encore en cours.
Vraiment, à ce que le pays fasse le nécessaire, à ce que le pays arrête tout ça. Comme en métropole, on a exactement les mêmes problèmes. Exactement, la concurrence est loyale, l'activité est illégale. Nous, on paye des charges, on paye tout ce qu'il faut. Et à côté, tu as des personnes qui ne payent rien et qui viennent te piquer dans ton assiette. Ça se met dans notre place. Hein.
Au terme de la rencontre avec le président Brotherson et le ministre des Transports Jordi Chan, le gouvernement semble enclin à résoudre le problème, c'est ce que dit le représentant des taxis. Aujourd'hui, les esprits semblent s'être calmés, du moins temporairement, puisque les chauffeurs attendent désormais d'être reçus par le haut-commissaire.
Et de la grogne encore chez les représentants syndicaux de la SOMAC, ils ont rencontré l'inspection du travail hier, Vanilla.
Oui, on vous en parlait ces derniers jours, du désarroi, voire de la colère des 90 salariés de ce distributeur de matériaux à qui on a annoncé qu'ils n'auraient plus d'emploi d'ici juillet à cause d'un conflit foncier. L'inspection du travail, à ce stade, s'est limitée à décrire les procédures que leur entreprise est censée engager pour liquider l'entreprise. Sauf que visiblement, rien n'a été lancé et que le propriétaire de la société, Quito Brown Ortega, refuse pour l'instant de s'exprimer. Les syndicats, et notamment Otahi et Atiaï Moua, n'excluent pas de saisir la justice dans ce dossier.
On ouvre une page politique avec ces recours qui se préparent contre la loi fiscale.
Et oui, ils avaient été annoncés avant même le vote de la loi jeudi dernier. Il faut dire qu'après l'annulation par le Conseil d'État de la première mouture de la loi du ministère, le ministère des Finances a choisi de faire un pari risqué, la rétroactivité de cette deuxième version. Alors pour le gouvernement, il s'agit d'éviter d'avoir à rembourser ou redresser des centaines d'entreprises contribuables pour les premiers mois de l'année. Et hier, sur Polynésie la première, Edouard Fritsch assurait qu'un recours serait bien déposé. Il est effectivement en discussion avec le Tapura, comme le précise la représentante Aereya Polinetia, Nicole Sanker. Il s'agit aussi, avant ce recours, d'interpeller le Haut-Commissariat au titre du contrôle de l'égalité.
En fin de compte, nous, ce que nous contestons, finalement, c'est cet amendement avec une possible rétroactivité jusqu'à décembre 2023. Et nous savons que le Conseil d'État a rendu plusieurs arrêts qui interdisent cette possibilité d'appliquer une rétroactivité à une loi fiscale qui, en plus, est détachée d'un budget.
Nicole Sanker qui précise que des groupements professionnels ou des entreprises touchées par cette loi, notamment dans le milieu de l'hôtellerie, l'automobile, le tabac ou l'immobilier, pourraient eux aussi saisir le Conseil d'État. Ce n'est pas ce qu'on souhaitait, assure la députée qui rappelle que des alternatives ont été présentées à la majorité Tavini.
Nuit Holosé a interpellé 2 fois le gouvernement et a fait la proposition suivante, c'est-à-dire de reporter l'application de cette loi fiscale au 1er janvier 2025, ce qui laissait encore du temps au gouvernement de pouvoir consulter les acteurs économiques et de pouvoir améliorer finalement cette loi qui est très contestée. Hein. Et vu que nos amendements ont tous été rejetés, donc nous avons tenté encore de raisonner le gouvernement, mais évidemment sans résultat concret.
Pas de résultat des recours en préparation, donc ils doivent être déposés dans les 15 jours par au moins 6 représentants de l'Assemblée, par le Hausser ou par des groupes privés qui ont intérêt à agir. Le Conseil d'État aura ensuite 3 mois pour rendre sa décision sur la validité de la loi.
On revient maintenant sur cette terrible attaque de chiens, Rafa.
Oui, un couple et leur ami ont été sévèrement blessés ce week-end au Mont Marao lors d'un entraînement de trail. C'est samedi en fin de matinée, lors de la descente, que l'attaque a eu lieu. À ce moment-là, chacun court à son rythme et Aurélie est la première à arriver à un endroit précis au niveau de la décharge Saint-Hilaire. Mauvaise surprise, les chiens sont sortis et la coureuse se retrouve encerclée par trois d'entre eux, dont l'un se jette sur son bras. Écoutez son témoignage recueilli par Lucie Rabréo.
Ça a été vraiment des secondes intenses parce que on n'a pas le temps de réfléchir. Quand il s'est jeté sur mon bras, je tenais un bâton dans la main droite et je pense avoir fait ce qu'il fallait pour qu'il se détache. Il s'est rapidement détaché. Malheureusement, dans l'action, j'ai trébuché sur une racine en marchant en marche arrière et je me suis retrouvée à terre. Et là, ça a été vraiment le moment le plus critique pour moi où je savais qu'il fallait absolument que je m'en sorte, sinon ils se jetaient tous les trois sur moi.
Et oui, Aurélie parvient finalement à s'éloigner en hurlant et en attrapant un bâton. Et très vite, elle pense à ses amis derrière elle et veut les prévenir, mais son téléphone est tombé et elle ne peut pas retourner sur place. Elle rejoint sous le choc le parking, espérant trouver quelqu'un. Mais quand elle parvient enfin à prévenir le groupe, son amie Emma a déjà été attaquée. Alors Emma, c'est la plus sévèrement blessée. Elle compte 60 points de suture aux jambes et à la fesse. Un de ses mollets est même déchiqueté. C'est en hurlant et en criant qu'elle est parvenue à se libérer des chiens pour s'éloigner. Elle appelle ensuite le SAMU qui mobilise les pompiers de qui lui explique à leur tour qu'ils ne peuvent pas venir sur ce sentier avec leur voiture. Emma parvient finalement à joindre un ami qui déboule en Jeep 15 minutes plus tard pour la tirer d'affaire. Mais l'histoire ne s'arrête pas là puisque quelques minutes après, le mari d'Emma est également attaqué moins gravement que sa compagne. Elle est finalement emmenée à la clinique Paofei où une opération est nécessaire pour reconstituer sa jambe. Pour le moment, elle ne peut pas marcher et a l'interdiction de poser le pied par terre. Elle aussi a accepté de témoigner.
Je bénis le ciel d'être vivante aujourd'hui. Là, je suis dans l'état d'esprit que putain, j'ai eu la chance de ma vie, en fait. J'ai failli crever et non, je m'en suis sortie. Parce que quand ils m'ont bouffé l'autre jambe, je me suis dit, si je tombe par terre, ils cherchaient, ils sautaient sur moi, ils essayaient de... Ils sont plusieurs, tu vois, ils s'y prennent à droite, à gauche, enfin, tu vois, tu peux pas t'en sortir. Donc là, aujourd'hui, mon état d'esprit, c'est alléluia. Mon mari, lui, est très en colère. Moi, je suis en mode, mais attends, j'ai survécu un truc de fou. Donc en fait, moi, je suis plutôt ouf, quoi. Alors, j'irai plus jamais marcher en montagne, ça c'est sûr, parce que je suis traumatisée, j'arrête pas d'entendre je rentends les chiens.
Voilà, les trailers avaient prévu d'aller porter plainte aujourd'hui en espérant voir le propriétaire des chiens devant les tribunaux. Selon nos confrères de Polynésie La Première, la police municipale de Faa s'est rendue sur les lieux de l'attaque dès hier pour tenter de retrouver les chiens, mais sans succès. Contacter la mairie n'a pour l'instant pas fait de commentaire.
Et puis le lycée de la Ménée a été évacué hier.
Oui, il était tôt quand une épaisse fumée rouge s'est élevée au-dessus du lycée. Peu après leur arrivée, les 2300 élèves ont donc dû être évacués et la route a été fermée à la circulation, tandis que plusieurs camions de pompiers ont investi les lieux en arrosant copieusement le plus ancien bâtiment de l'établissement. Eh bien, il s'agissait d'un exercice au scénario bien précis et simulé grâce à un produit spécial permettant de créer cette fameuse fumée. Ni les surveillants, ni les enseignants, pas plus que les élèves, n'étaient informés de l'exercice qui a tout de même alimenté la rumeur et l'inquiétude en début de matinée chez certains parents d'élèves. L'objectif est évidemment de constater si le plan d'évacuation est opérationnel.
Un rendez-vous culture. 38 écoles sont inscrites au Tao Piti Anae.
Oui, le Heiva des écoles fête ses 30 ans. L'occasion de rappeler que lors de la première édition, 4 écoles seulement avaient participé et qu'elles seront donc 38 cette année. Une belle exhibition où la compétition est absente, mais pas l'exigence, car chaque école veut évidemment montrer son savoir-faire et essayer de séduire d'éventuels futurs élèves. L'événement est également un tremplin pour de nombreux enfants, comme le précise le directeur de la Maison de la Culture, Vaitua Tokoragi.
J'en parlais encore ce matin à une chef de groupe du Heiva Itaiti. Ben, beaucoup d'écoles justement ont permis ensuite de passer sur des événements comme le Hurata Paeru, comme le Heiva Itaiti. Donc ce sont vraiment des écoles qui permettent l'émergence de jeunes artistes, de jeunes talents. Et même plus que ça, on parlait de 4 écoles au début, aujourd'hui 38. Certains jeunes qui ont grandi pendant ces 30 ans, qui ont fait le Heiva Itaiti, qui ont fait le Hurata Paeru, sont désormais aujourd'hui directrices ou directeurs d'école. Et du coup, je pense que cet événement-là a permis justement de permettre tout ça en place. Oui.
Et ces célébrations, elles continueront avec le traditionnel gala du Conservatoire artistique de Polynésie française, qui rendra cette année hommage à son professeur disparu, John Meirey. Plus de 1000 élèves présenteront différents tableaux avec de la danse, du chant, des percussions et du horero, mais surtout, ils seront tous rassemblés pour une scène commune, une danse chère au cœur de John Meirey, appelée le Rauti Fenua. Les explications de Frédéric Sibard, en charge de la communication du Conservatoire.
On a déjà l'un des plus grands popo-jiménés de toute l'histoire du Fenua, avec entre 400 et 500 élèves qui chantent tous en même temps. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est un exploit de les faire danser tous en même temps, parce que les petits qui sont en initiation, eux-mêmes ont dû apprendre toute l'année les pas du raouti fénois. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. Et les réunir tous ensemble comme ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Ce sera une beauté fabuleuse et on sera tous très émus.
Voilà, ce sera donc du 30 mai au 9 juin pour le Heiva des écoles et le 22 juin pour le gala du conservatoire. La billetterie s'ouvre demain à 9h en ligne ou sur place.
Un œil sur la métropole avec ses commémorations.
Oui, celle des 80 ans de la libération de la France à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le président Emmanuel Macron a entamé un véritable parcours mémoriel qui aura comme point d'orgue l'anniversaire du débarquement en Normandie début juin. Mais avant ça, le chef de l'État était cette nuit dans le Vercors et plus précisément à Vassieux, où il a rendu hommage aux centaines de maquisards aux civils morts en avril 1944 lors de combats contre l'armée allemande. Alors pourquoi en parler dans notre édition locale ? Eh bien parce que parmi les morts de Vassieux, il y a un Tahitien, André Marc Terry Temaeva Vernier. Ce fils de pasteur et même fils du président des églises protestantes de Tahiti, Charles Vernier, est né à Uturoa et a grandi ici en Polynésie. C'est l'historien Jean-Christophe Shigetomi qui a retracé son parcours.
Avec ses trois autres frères, certainement en âge de passer le certificat d'études, ils étaient remontés dans des bateaux pour pouvoir aller suivre leur scolarité en France. Et ils seront pris donc par la guerre. Lui, il est le plus jeune, André. C'est quelqu'un qui milite très rapidement dans les jeunesses protestantes contre le nazisme. Il se fait très vite repérer. Et la seule échappatoire, comme c'était le cas aussi pour le service du travail obligatoire, c'était de fuir au maquis.
Prendre le maquis, les frères d'André, eux, n'en ont pas eu l'occasion puisqu'ils ont été mobilisés au début de la guerre. Henri Vernier passera plusieurs années dans un camp de prisonniers allemands avant de retourner en Polynésie pour lui aussi devenir pasteur. Son aîné Albert va réussir à s'évader pour rejoindre l'Afrique du Nord et le bataillon d'infanterie de marine du Pacifique. Il mourra dans les